En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, je ne veux pas en parler.
Tu parles d'une connerie.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes. Ne nous mentons pas, cette histoire sera triste, parce qu'elle parle de la fin d'un temps où les hordes de bisons galopaient encore dans les grandes plaines américaines. Mais à la fin du 19e, la civilisation occidentale a repoussé ce qui reste des tribus indiennes vers des réserves toujours plus misérables, plus reculées, plus malsaines. La maladie, la famine, le désespoir s'installent chez ces peuples qui ont une conscience d'autant plus aiguë de la fin de leur monde que Washington ne s'en cache pas, l'avenir des tribus, ça consiste à se soumettre ou à mourir. Au début de l'année 1890, dans les réserves du Dakota, la chasse n'est plus possible, le nomadisme non plus. Il ne reste que les récoltes, mais elles sont maigres parce que les Indiens ont de mauvaises terres et que leur culture n'a jamais reposé sur l'agriculture. Alors que la famine éclate, la colère qui grondait depuis des mois prend soudain la forme d'un mouvement religieux, la Ghost Dance, la danse des esprits. Son fondateur, Wovoka, en appelle aux esprits des anciens, mais la Ghost Dance est d'abord pacifique. Elle prophétise bien la fin de l'homme blanc, mais n'appelle à aucune guerre, au contraire, jusqu'à ce que poussée à bout, certains guerriers Sioux s'éloignent de Wovoka et développent une autre version de la Ghost Dance, basée sur l'idée qu'un messie amérindien va se lever pour guider les tribus vers la victoire. Sitting Bull, le grand Sitting Bull, jette tout son poids dans la balance pour calmer les esprits, mais il n'interdit pas la Ghost Dance à ses hommes, et ça, c'est exactement le prétexte dont Washington a besoin. Le 15 décembre 1890, on envoie des policiers pour arrêter le grand chef Sioux. Les esprits s'échauffent, des coups de feu partent, et le vieil homme médecine meurt à 60 ans d'une balle tirée dans la nuque. Les États-Unis viennent de réussir l'exploit de tuer un des sages indiens les plus respectés, pour rien. Dans la confusion, quelques centaines de Lakota et de Sioux effrayés fuient vers les campements les plus proches. L'armée américaine décide d'y voir le rassemblement d'un bastion de rebelles, adeptes de la Ghost Dance. En fait de rebelles, le campement ne réunit que quelques centaines de personnes autour d'un vieux chef, Bigfoot, lui-même touché par une pneumonie. C'est le plein hiver dans le Dakota, la neige recouvre tout, les nuits sont glaciales. L'armée américaine encercle le site. La tension retombe un temps quand le 5e et le 6e régiment de cavalerie fournissent aux Indiens des tentes et des vivres. Ils en profitent pour les recenser. On compte 120 hommes et 230 femmes et enfants qui se réchauffent comme ils peuvent dans ce campement de fortune installé près d'une rivière gelée, le creek de Wounded Knee. Et il faut croire que ce rassemblement de vagabonds affamés à quelque chose de terrifiant parce que l'état-major décide d'envoyer un 3e régiment, pas n'importe lequel, le 7e de cavalerie, celui du général Custer, battu 14 ans plus tôt à Little Big Horn. Alors que 2 régiments sont sur place, qu'ils ont déjà établi des liens avec les Amérindiens, on envoie ces hommes-là pour saisir leurs armes et les déporter vers le Nebraska. Au matin du 29 décembre, les Lakota se réveillent, encerclés par 500 soldats armés jusqu'aux dents, postés en surplomb. Quelques dizaines d'hommes investissent le camp, défoncent les tentes, écartent les braves sans ménagement pour saisir les armes. La tension, déjà palpable, monte soudain d'un cran quand on tente de désarmer un jeune guerrier qui ne comprend pas l'ordre et pour cause, il est sourd. 2 soldats le prennent à la gorge, saisissent son fusil, évidemment ça ne rate pas, un coup de feu part accidentellement. Une gigantesque fusillade éclate aussitôt, les soldats présents au milieu des Sioux tirent, se font tirer dessus. Le vieux Bigfoot, malade à crever, ne peut rien empêcher, tiré de sa paillasse, il est abattu comme un chien par on ne sait qui. Les hommes qui ne sont pas immédiatement abattus se dégagent, répliquent comme ils peuvent à l'arme blanche avec quelques rares armes à feu. Depuis le haut de la colline, l'ordre de tir est donné. Un déluge de mitraille s'abat sur la tribu et même sur les soldats encore engagés. Les tirs s'éternisent une heure entière. Il faut qu'un immense blizzard se lève pour qu'on ordonne le cessez-le-feu. Un blizzard si puissant qu'il faut attendre 3 jours. Pour faire le bilan du fiasco. Quand on peut enfin compter les corps, on relève 26 soldats tués et officiellement 153 Amérindiens, dont 44 femmes et 18 enfants. Les historiens ont montré depuis que ce chiffre avait été largement sous-estimé. En tout, plus de 350 personnes sont mortes à Wounded Knee. On ensevelit les morts sur place dans une fosse commune, et dans l'immense trou qu'on creuse, c'est aussi une part de l'âme indienne qu'on enterre. Oh, il y eut bien un procès militaire, mais le colonel qui avait commandé le tir de barrage finit par être innocenté contre l'avis de son général. Mieux que ça, Une vingtaine de soldats ont reçu la Medal of Honor, la plus haute distinction américaine. À titre de comparaison, 65 000 Amérindiens ont combattu dans les rangs de l'armée américaine en 39-45, et seulement 3 d'entre eux ont obtenu cette médaille. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps. Nobody's fault but mine.